Bonjour et bienvenue sur En Amour, ton émission de podcast dans laquelle nous explorons les méandres des relations amoureuses. Pour y ajouter une pointe de conscience, de bienveillance et bien sûr d'amour. Moi c'est Nicolas, je suis l'hôte du podcast et je suis aussi l'auteur du blog graindecoeur.fr. Et aujourd'hui c'est l'épisode 161 que j'ai intitulé « Sexualité dans le couple, une question de technique ou de compatibilité ». On va explorer un peu tout ça, on va parler de sexualité, parce que tout simplement c'est quelque chose qui n'est pas facile à naviguer. Pour beaucoup de personnes, en fait, quand tu parles avec des gens qui sont en couple depuis un moment, tu te rends compte qu'il y a très peu de couples pour lesquels c'est allé tout du long de la relation. En général, c'était soit compliqué au début et ça s'est amélioré parce que voilà, ils ont appris à faire mieux, on va dire, et on va explorer un peu comment aujourd'hui. Et soit c'était bien au début, ça s'est dégradé et peut-être qu'ils ont réappris à faire mieux ou pas, ça dépend. Donc tu as un peu ces deux scénarios-là. Bon, après, y a les entre-deux hein, qui sont possibles, que ça allait bien, ça allait plus, ça allait bien, ça allait plus, j'en sais rien. Tu vois, y a tout ça qui est possible, bien sûr. Et c'est souvent les deux scénarios un peu plus classiques que tu vis ou que tu vas vivre, probablement. C'est un peu comme dans toutes les autres dimensions du couple, hein. Il y a l'intellect, donc c'est les projets de vie, c'est qui est l'autre, etc. Il y a l'émotionnel, donc c'est ce que tu vis émotionnellement, il y a le spirituel, voilà, tu mettras ce que tu veux derrière ça, donc il y a des moments magiques, il y a des périodes plus compliquées dans ces quatre dimensions de ton couple, hein. Émotionnel, intellectuel, spirituel, sexuel, ça fait un petit moment que je t'en ai pas parlé, c'est pour ça que je te les renomme aussi, mais dans ces quatre dimensions de ton couple, il y a des choses voilà, qui sont parfois un peu plus compliquées, qui sont parfois un peu plus délicates, et il y a des hauts et des bas. Et la seule chose qui est à peu près assurée, c'est les hauts et les bas, en fait. Du moins les bas. Les hauts, bien sûr, ils sont là, bien sûr que tu peux les retrouver, mais des fois, on se perd et on n'arrive plus à retrouver les hauts. Du coup, c'est un peu compliqué, quoi. Donc, bien sûr, il y en aura. Bien sûr, tu risques de les perdre. Et voilà, et on va essayer de regarder un peu aujourd'hui comment, autour de la sexualité, comment retrouver ces hauts si on était en bas, par exemple, ce genre de choses-là. Et quand on parle de sexe, de sexualité, de faire l'amour, de toutes ces choses-là, il y a probablement, souvent, il y a deux choses qui sont mises en avant. Alors, je ne vais pas te parler de « c'est la faute de l'autre, ça se passait bien avec mon ex ». Ça, c'est aussi courant. Moi, tous les sexologues que j'ai entendus parler de sexualité, toutes les émissions de podcast que j'ai écoutées, les livres que j'ai lus, il me semble qu'ils ont tous dit qu'ils ont un tas de couples dans lequel il y en a... Un pour qui, comme ça allait avec ses ex, souvent l'homme, mais pas que, va amener la compagne ou le compagnon, dans certains cas, chez le sexologue en disant « ça marchait avec les autres, ça marche pas avec elle, réglez le problème », entre guillemets. Voilà, c'est un peu ce qui se passe. On va pas explorer ça ici, parce que je vais te donner des réponses, en fait. Enfin, je sais pas si je vais te donner des réponses, je vais te donner des pistes, des questions, des choses qui vont faire que cette question, peut-être, elle va se dissoudre, en fait. Il n'y a pas besoin de parler de ça parce que ce n'est pas vraiment là où il est le problème, ce n'est pas ça la question vraiment, c'est pas ça allait avec les autres, pourquoi ça ne va pas avec lui, pourquoi ça ne va pas avec elle. On va balayer un peu tout ça, et du coup voilà, on va pas parler de ça directement. Bien sûr, si les deux choses que je voulais t'amener, qui sont souvent les deux solutions que tu vas trouver, que tu vas lire, ou du moins... Plus que tu vas trouver et lire, il y a des personnes qui disent que c'est des solutions, c'est les questions qu'on va se poser quand on a des problèmes. C'est plus les questionnements des couples et les questionnements des individus qui se disent ben, voilà, c'est quoi les pourquoi ça ne va pas sexuellement, ok, est-ce que c'est ma technique qui n'est pas bonne, est-ce que c'est la technique de ma partenaire qui n'est pas bonne ou de mon partenaire qui n'est pas bonne. En fait, donc voilà, c'est est-ce que je m'y prends bien, est-ce que il ou elle s'y prend bien, est-ce que je t'ai donné du plaisir correctement, est-ce que je connais un peu le corps de l'autre et comment faire avec le corps de l'autre sexe ou du même sexe, peu importe. Et pareil, quand je reçois, est-ce que l'autre sait faire avec mon corps, avec mon sexe, etc. Donc c'est souvent là qu'on va se questionner et voilà, peut-être que c'est important la technique, peut-être que ça ne l'est pas, peut-être que ça ne résout pas tous les problèmes, on va en parler un peu plus tard. Et qu'est-ce qu'il en est de la compatibilité, hein, parce que est-ce que c'est le fait qu'on aime les mêmes choses qui fait que ça marche, mais comment on gère les différences? Y a un peu ces questions-là qui sont autour de ces deux axes, on va dire. Et quand on parle de sexualité, en fait, c'est tellement un tabou dans les relations de couple que ces choses-là ne sont même pas discutées bien souvent. C'est discuté, mais dans la tête d'un des partenaires, en fait. Il y a un des partenaires qui va se poser ces questions-là. Est-ce que je suis un bon coup, entre guillemets, tu vois, est-ce que je sais bien m'y prendre, est-ce que je sais bien faire, etc. Ou, ou est-ce que c'est l'autre, ou est-ce qu'on est compatible. Et c'est ces choses-là qu'on va ruminer sans en parler, sans les ramener dans la relation, sans créer l'équipe, sans faire toutes ces choses-là qui vont faire que on va faire peut-être un petit problème, comme on va le voir un peu plus tard dans ce podcast, qui est peut-être pas si petit, mais qui n'est pas rédhibitoire, on va dire, pour ta relation. On va en faire une montagne après 6 mois, après 1 an de rumination, de se poser des questions. Ah, est-ce qu'on est compatible? Est-ce qu'on est compatible? Ah, si ça ne marche pas, c'est qu'on n'est pas compatible. Hein, forcément, c'est ça la réponse. Si sexuellement, ce n'est pas fluide, si sexuellement, ça ne marche pas, et que tu te poses la question de la compatibilité, la réponse, ça va être on ne va pas être compatible, sinon ce serait fluide. Okay. Et si tu te poses la question de la technique, et que toi, tu n'as pas ce que tu veux dans le couple, et tu vas dire, il ne sait pas s'y prendre, oui, il ne sait pas s'y prendre, en fait, il n'est pas bon au lit, ce n'est pas un bon coup ce mec-là, ce n'est pas un bon coup cette nana-là, en fait. Parce que moi, je ne reçois pas ce que je veux, je ne reçois pas les orgasmes que j'avais dans le passé, je ne reçois pas ce que j'ai connu avec d'autres personnes, ou ce que je pense que je peux connaître de ce que j'imagine que je suis capable de vivre en termes d'orgasme. Du coup, c'est forcément leur technique à eux qui n'est pas bonne. Et là aussi, tu vas dire, le problème, il est avec eux, donc c'est un problème de compatibilité, plus ou moins, ou de technique, et tu vas mettre fin à la relation, ou tu ne vas pas être satisfait, tu vas rester dedans, etc. Donc, si tu te poses les mauvaises questions, souvent, tu trouves les mauvaises réponses. C'est un peu le problème des questions. Hein. Souvent, moi, une première porte d'entrée dans le développement personnel, c'était apprendre à se poser les bonnes questions. Quoi. J'ai trouvé ça fascinant, les gens qui, avec des questions... qui se posaient des questions différentes, avaient des résultats très différents dans leur vie, quoi. Et puis après, tu réfléchis à ça. Est-ce que je me pose la bonne question quand je pense à mes problèmes de ma vie, aux problèmes dans mon couple, est-ce que je me pose la bonne question? Est-ce que cette question-là, elle va m'aider à trouver une réponse qui est utile, en fait? Parce que si la réponse, c'est forcément qu'on n'est pas compatible, qu'est-ce qu'on fait ensemble? Et là, t'as un problème, là. Parce que c'est peut-être pas ça, le problème, en fait. C'est peut-être pas le problème de compatibilité, mais on va le voir ensemble. Donc voilà, ces questions sont dans la tête de l'un l'autre, sont jamais posées, elles voient jamais le jour, entre guillemets, dans le sens où elles sont pas partagées. Et je vais pas te parler du manque de communication autour de la sexualité, mais je voulais quand même le poser, quoi. Donc l'invitation, c'est bien sûr ça, en parler, que ça devienne de plus en plus normal, d'être de plus en plus à l'aise avec la sexualité, les termes, les mots, tout ce que tu peux imaginer autour de la sexualité. Et du coup, c'est aussi pour ça que j'aime bien en parler sur le podcast, hein, c'est parce que ça permet un peu de casser ce tabou-là, de, voilà, force que tu m'entends en parler, peut-être que tu vas dire, ah ouais, en fait, c'est pas si, c'est normal, ou voilà, peut-être que t'es quelqu'un qui en parle facilement aussi, et tant mieux. Et pour ceux qui, moi, comme moi, pendant une bonne partie de ma vie, c'était des choses qui étaient difficiles de parler, il y avait beaucoup de honte autour de la sexualité, autour du désir, autour de mes envies, autour de mes fantasmes, toutes ces choses-là, donc j'avais beaucoup de mal à en parler, j'ai eu un besoin de faire un travail un peu de libération à ce niveau-là. Le fait d'en parler sur ce podcast, je pense que ça a aidé aussi. Je ne sais pas si c'est toujours nécessaire, je ne sais pas si ça libère toujours, mais ça ne fait sûrement pas de mal en tout cas. Et dans d'autres espaces, bien sûr, hein, pas que là. Dans mon couple, en thérapie, dans d'autres lieux, tout simplement. Je pense que ça peut faire du bien de l'entendre et peut-être de pouvoir derrière en parler plus facilement parce que t'as entendu que c'était ok d'en parler, quoi. Donc je vais pas aborder aussi non plus le manque de parole plus que ça, mais je voulais le nommer, voilà, c'est une des causes de bien des maux dans la sexualité. Et peut-être avant de te donner un élément de réponse, pose-toi vraiment la question. Si c'était le problème, c'était la technique ou la compatibilité, il viendrait d'où le problème selon toi? C'est quoi ta réponse automatique? C'est où que tu vas? C'est pas... L'important, c'est pas d'avoir raison, l'important, c'est de comprendre comment toi tu fonctionnes. C'est quoi ton raisonnement? C'est quoi tes croyances autour de la sexualité? Est-ce que tu penses que c'est un problème de compatibilité? Est-ce que tu penses que c'est un problème de technique? Et te dire, peut-être qu'après avoir écouté le podcast, et peut-être que je vais influencer ta réponse, mais tu connais ton point de départ, tu comprends d'où t'en es, tu comprends comment tu raisonnes, tu comprends comment t'as jugé, entre guillemets, t'as jugé tes relations passées, ta relation en cours, de quel point de vue, quoi? Est-ce que c'est un problème de technique? Est-ce qu'il ne sait pas s'y faire avec mes parties intimes de femme? Ou est-ce qu'il ou elle ne sait pas s'y faire avec mes parties intimes d'homme, etc. Comment c'est pour toi? Et bien sûr, on va passer un peu à la suite. Et du coup, je vais te parler un peu de ce que je voulais dire. Alors, je vais revenir un peu rapidement sur la technique et sur la compatibilité. Bon, bien sûr qu'à certains moments, un peu de technique, c'est le bienvenu. Si tu ne sais pas ce que tu fais du tout, probablement que ça va être compliqué. Il y a quand même un peu d'anatomie à comprendre, il y a quand même un peu de technique, de mouvement peut-être à apprendre, à faire, etc., qui, selon ta partenaire, vont être plus agréables. Il y a des choses qui sont plus ou moins universelles, il y a des choses qui varient énormément dans la sexualité, chez les hommes et chez les femmes. Il y a le stéréotype du clitoris chez la femme, il y a le stéréotype de la masturbation, entre guillemets, chez l'homme, des mouvements un peu plus énergétiques en va-et-vient. Bon, peut-être que c'est bien de maîtriser ça, de maîtriser au moins ça. Mais il y a plein d'autres choses, il y a plein d'autres manières de faire, autant pour l'homme que pour la femme. plutôt autant pour la femme que l'homme, parce que des fois on a tendance à penser que l'homme c'est plus ou moins toujours pareil, mais il y a pas mal de trucs. Donc tu peux aller voir du côté de la technique, il y a des livres, il y a des manières de se toucher soi-même, de toucher l'autre, tu trouveras des bouquins, tu trouveras des vidéos qui vont te parler de ça. Je ne vais pas explorer la technique plus que ça, parce que je veux aller ailleurs aujourd'hui, et il y a d'autres contenus pour ça. Mais ça peut être intéressant d'avoir un peu de technique, quoi. Le problème de la technique, c'est qu'est-ce que tu fais quand ton partenaire n'a pas envie ? Et ça fait un lien direct avec ce que je vais t'amener un peu plus tard dans ce podcast, de l'interview. Je vais te parler d'une interview que j'ai écoutée, de la vie d'une sexologue renommée aux États-Unis qui parle de son chemin de parcours de vie à elle. Et son problème, c'était ça, c'était qu'elle connaissait toute la technique du monde, elle avait lu tous les livres du monde, mais ça marchait pas avec son mec. Du coup, bah, t'as pas l'air con, quoi. Tu sais tout faire, hein. Des doigts, des mains, de la bouche, de ce que tu veux, elle a tout appris, elle a tout, mais ça allait pas, elle arrivait pas à initier, ils faisaient plus l'amour, il y avait plus de sexualité, etc. Donc c'est un peu ça le problème de la technique. Ça peut être bien, ça peut servir, ça peut soutenir, et en même temps ça peut enfermer dans des trucs où on se croirait à un cours où tu dois faire exactement précisément comme ça, sinon ça marche pas. Ça peut enfermer un peu là-dedans, ce qui est restrictif, parce qu'on fait que de la technique, et qu'est-ce qu'il en est de la spontanéité, de l'exploration, de nouvelles choses, etc. Et qu'est-ce que tu fais quand l'autre ne veut pas ? La technique, ça ne va pas résoudre ce problème-là. Parce que vouloir faire l'amour et prendre son pied, c'est quand même deux choses qui sont différentes. Et qu'est-ce qu'il en est de la compatibilité ? Si la technique, elle n'est pas assez, bien sûr que avoir un peu de compatibilité, c'est bien. Parfois, souvent, qui sait ? Avec des limites, entre guillemets. Parce que le problème de la compatibilité, si vous aimez faire l'amour exactement pareil, de la même manière, à la même fréquence, et au début, les premières fois que vous faites l'amour, c'est un match parfait et tout. Est-ce que vous n'allez pas vous faire chier au bout d'un moment ? Est-ce que vous n'allez pas vous ennuyer ? Probablement. Si c'est trop différent, le risque, c'est de pas arriver à se rencontrer, de pas arriver à se trouver sexuellement, de pas arriver à trouver les... soit on fait un truc pour lui ou un truc pour moi, mais ça se nourrit pas et on se retrouve un peu dans la situation où elle était, cette sexologue américaine, que je vais te parler dans un instant. Où vraiment on ne fait plus l'amour parce que on ne sait plus comment s'y prendre, on n'est pas compatible tout simplement, et du coup ça ne marche pas. Quant à elle, la technique, elle a beau s'apprendre, quand tu regardes de l'angle de la compatibilité, comme je te disais un peu au début, quand tu te poses la mauvaise question, quand il n'y a pas de compatibilité ou pas assez, ça sent un peu le sapin, quoi. Il y a beaucoup de couples qui se défont à cause de ça. Quand tu entends des gens qui se séparent, hein, des gens qui parlent de leur témoignage de pourquoi on s'est séparés, on n'était pas compatibles sexuellement, quoi. Ok, bien sûr. Et en même temps, est-ce que c'était la seule solution ? Est-ce qu'il n'y avait pas une autre manière de faire ? Est-ce qu'il n'y avait pas une autre option, une autre possibilité ? C'est là où je vais te parler un peu de cette interview. Je te partagerai, si tu veux l'écouter, là en anglais, c'est pour ça que je t'en parle pas tout de suite. Je t'en parlerai à la fin si ça t'intéresse vraiment. Je te donnerai l'endroit où l'écouter. Je vais te raconter un peu l'histoire de cette femme, de Miss Jaya, qui est sexologue, autrice, conférencière. Elle a écrit des bouquins, etc. aux États-Unis. Elle est vraiment reconnue comme l'une des expertes, du moins publiquement. C'est elle qui fait le tour des podcasts, qui vend des livres et qui forme des coachs et des thérapeutes à ses méthodes. Je vais pas t'en parler pendant 2 heures, mais je vais te donner le contexte qui est important, quoi, autour d'elle, de sa vie. Je t'ai pris cette interview parce que je trouve qu'elle est super à plein de niveaux. En plus, c'est une femme qui parle ouvertement de sa sexualité, donc tout ce que je t'amène là, il y a rien de... C'est pas comme si je la connaissais, que c'était des choses qu'elle m'avait dit en privé. Non, je la connais pas du tout. C'est des choses qu'elle parle dans ses bouquins, c'est des choses qu'elle amène sur les plateaux de podcast dans lesquels elle va. Donc il n'y a pas de secret, il n'y a pas de tabou, c'est des choses qui sont connues ouvertement, donc on peut prendre tout ça sans révéler la vie privée de quelqu'un, de quoi que ce soit. Donc c'est super, quoi, parce que tu verras qu'il y a plein de choses très intéressantes dans son exemple à elle, dans sa vie à elle. C'est aussi pour ça que j'ai pris elle, en fait. J'aurais pu en prendre d'autres, et je trouve vraiment que ça peut servir le podcast et soutenir ce que je veux te partager dans ce podcast. Et en plus, c'est quelque chose que tu peux, toi, derrière, si tu comprends l'anglais, du moins, aller consulter, aller écouter. Du coup, comme je te disais, elle avait lu des tonnes de livres. C'est quelqu'un qui a un schéma érotique sexuel, un schéma érotique qui est sexuel. Peut-être que ça te parlera, peut-être que je t'en parlerai un peu plus tard. Donc très jeune, elle a été très curieuse sexuellement, elle a appris plein de trucs, elle a lu tous les bouquins qu'elle pouvait. Donc techniquement, on va dire, c'était la reine du cul, pour utiliser un terme technique, très technique. Mais par contre, ça n'allait pas sexuellement avec son mec. Elle pensait même à se séparer, comme elle dit, elle avait one step out of the door, donc ça veut dire un pied vers l'extérieur, donc elle était vraiment prête à partir, quoi. Elle était déjà à moitié partie de la relation. Et elle a décidé de rester et de changer la sexualité dans son couple. Donc elle s'est vraiment penchée sur la question. Et l'outil qu'elle a trouvé, je t'en ai déjà parlé, je l'ai mentionné brièvement déjà dans ce podcast, tu verras si tu le trouves. Mais tu te doutes aussi que c'est sûrement ni la technique ni la compatibilité du coup. Ça peut être en lien avec la compatibilité, légèrement un peu, mais ça va surtout permettre d'aller au-delà, de faire du sur-mesure, de trouver cette capacité de s'adapter à l'autre, que l'autre s'adapte à toi, et vraiment d'avoir quelque chose, une relation qui est plus ajustée, qui est plus sur mesure tout simplement. Et c'est bien entendu cet outil, c'est cette solution qu'elle a trouvée, qu'ils ont trouvé tous les deux, c'est les 5 schémas érotiques. Comme je t'en ai parlé déjà plusieurs fois dans plusieurs émissions, tu vois, c'est pas nouveau, ça fait probablement 3-4 ans que je t'en parle, que j'ai découvert ça moi, donc c'est quelque chose que j'ai trouvé intéressant de revisiter. Surtout avec cette histoire de Jaya, ce qu'elle partage, etc. Et comme tu t'en doutes, ses schémas érotiques à elle, donc son schéma à elle qui est plutôt sexuel et celui de son compagnon sont opposés. Donc elle est vachement plus directe, elle est plus crue dans les mots, c'est vas-y, baise-moi, quoi. Quelqu'un qui est sexuel, ça va être ça, quoi. Et souvent, on voit plus ça chez les hommes, hein, mais c'est vraiment des gens qui sont plus directs, quoi, vraiment dans leur sexualité. C'est j'ai un désir, on le fait maintenant là, quoi. Y a pas besoin d'attendre, il n'y a pas besoin de préliminaires, il n'y a pas besoin de trucs, c'est vas-y, on y va, quoi, fonce, c'est parti. Donc lui, il est plutôt sensuel. Et ce qu'ils appellent le terme anglais, c'est kink, donc ça peut être coquin, on va dire. Des fois, ça se traduit par pervers, mais c'est pervers curieux sexuellement, quoi. Qui aime les choses un peu. Qui aime les choses un peu non conventionnelles, on va dire. Donc, eux, grâce à ces schémas érotiques, ils ont appris à transcender leur incompatibilité sexuelle, et donc ils ont pu vivre leur sexualité de manière plus juste, plus alignée. Aujourd'hui, ils sont encore ensemble. Alors, elle n'expliquait pas, c'était il y a combien d'années que ces problèmes-là sont arrivés dans leur vie, mais c'est sûrement il y a un petit moment. Et vraiment, chez moi, les mots que j'ai utilisés dans la préparation de ce podcast, c'est ils vivent une sexualité qui est plus parlante dans l'univers de l'autre, en quelque sorte. C'est-à-dire qu'il y a une sorte de fluidité, quoi. C'est-à-dire que elle comprend qu'elle est sexuelle, lui, il comprend qu'elle est sexuelle et qu'est-ce que ça veut dire. Et je vais te parler de tous les schémas un peu plus tard dans le podcast. T'en fais pas, je vais tous te les rappeler. Je te donne un peu plus de contexte encore avant. Et lui, il comprend qu'il est sensuel et kink, et elle aussi, du coup, ils peuvent ajuster tout simplement, quoi. Et je voulais vraiment souligner que je révèle rien ici. C'est vraiment des choses, tout ce que je vais t'amener, elle en parle ouvertement, elle l'a dit, redit, redit. Son mec est OK avec, elle est OK avec. Voilà, il n'y a pas de souci. Donc, un exemple qu'elle prend, par exemple, c'est que dans la voiture, elle va chercher à caresser le sexe de son homme. Tu vois, donc vraiment une femme qui peut être très directe dans sa sexualité, dans vouloir donner du plaisir, etc., quoi. Donc il y a plein d'hommes qui se disent, c'est le rêve en fait, d'une femme comme ça. Et car en effet, il y a pas mal d'hommes qui, eux, ont le schéma érotique sexuel. Et du coup, c'est leur manière d'approcher les femmes, leur manière d'approcher leur compagne. Mais le problème de ça, c'est quand toi, tu es sexuel et que le receveur ne l'est pas. C'est trop direct, c'est trop court, ça va trop vite, ça va refermer l'autre en fait. C'est-à-dire que toi, ta manière de vivre la sexualité qui est presque instantanée, qui peut être très spontanée et qui est très directe, elle est trop pour l'autre. Un sensuel, c'est trop pour lui. Et il y a des hommes sensuels et des femmes sexuelles, et il y a des hommes sexuels et des femmes sensuelles. Et tu verras, il y a 5 schémas, là, c'en est que 2. On en a vu 3 dans ce que je t'ai donné, kink, donc coquin, sensuel, sexuel, ça en fait déjà 3 sur les 5. Et voilà, mais je trouve intéressante cette histoire parce que tu vois, il y a des femmes qui le sont en fait comme ça. Et ça pose des problèmes dans leur relation aussi. On pourrait croire que non, c'est le Graal, entre guillemets, et que tous les hommes voudraient cette femme sexuelle, et non, en fait. Ça dépend de qui tu es. Si t'es un homme sexuel, très bien. Un homme qui a ce schéma-là, principalement. Si t'es un homme qui est sensuel, ça te va pas, et ça te donne pas envie de faire l'amour, en fait. C'est important de comprendre que ça marche dans les deux sens, en fait. C'est pas que parce que les hommes ont ce côté, des fois, très sexuel, on va dire du stéréotype porno, etc., que ça n'existe pas dans l'autre sens, tout simplement. Donc ça montre bien que c'est possible, que les rôles s'inversent parfois, qu'il faut aller au-delà des stéréotypes pour une sexualité épanouie. C'est aussi pour ça que j'aime bien ces schémas érotiques, c'est que si malgré il y a quand même des tendances qu'on peut observer que les femmes sont parfois plus sensuelles et que les hommes sont parfois plus sexuels, ben c'est pas, voilà, ça marche pas dans tous les couples comme ça. Il n'y a pas une solution qu'on donne à tout le monde. C'est toujours comprendre qui tu es, comment tu fonctionnes, c'est quoi tes trucs à toi, etc. autour de la sexualité. Pareil de l'autre côté, ça. Et ces schémas érotiques qui vont te permettre de comprendre tout ça, te dépatouiller, trouver une compatibilité, trouver des endroits où on se rejoint, des endroits où on peut explorer, des endroits où on peut vivre, quoi. Donc c'est important de comprendre tes schémas à toi, comment tu fonctionnes, et ses schémas à lui ou à elle, et comment lui ou elle fonctionne. Et ensuite, derrière, ça va être de travailler sur cette sexualité, apprendre à parler la langue de l'autre. C'est comme si, voilà, vous parlez français tous les deux, par exemple, dans une relation. Mais sexuellement, c'est comme si lui parlait japonais, toi tu parles néerlandais. C'est vraiment à ce niveau-là, quoi. Quand t'es, je vais te prendre deux extrêmes. Quand t'es très fort sensuel et que c'est ton schéma principal et il y a quasiment que ça, et que t'es très fort sexuel et que c'est le schéma principal de l'autre et il y a quasiment que ça, c'est vraiment deux langues complètement différentes. C'est comme si vous parlez, vous comprenez pas, quoi. C'est-à-dire que les besoins du sensuel, ils sont tellement différents des besoins du sexuel que ça paraît incompatible, en fait. En surface, ça paraît incompatible. Et ça l'est. C'est juste que c'est possible de transcender ça, d'aller au-delà de cette incompatibilité, de comprendre l'univers de l'autre et de dire, ben, tout le monde n'est pas comme moi. Il n'y a pas que des sensuels, il n'y a pas que des sexuels, il n'y a pas que des coquins, il n'y a pas que, etc. Il n'y a pas que des personnes des autres schémas. Il n'y a pas que ça, en fait. Il y a des gens qui ont des sensibilités différentes, qui ont des choses différentes qui leur plaisent. Il y a des gens qui sont un mélange de plusieurs schémas, il y a des gens qui sont un schéma très fort et un deuxième un peu, et qui n'ont pas du tout les autres, etc. Et c'est pour ça qu'il y a un peu ce travail d'introspection à faire, quoi, de chercher à se comprendre comment moi je suis, comme ça je vais pouvoir le partager à l'autre, parce que, bien sûr, c'est important de comprendre l'autre, mais il faut que ma partenaire, elle me comprenne aussi, ils me comprennent, c'est important, quoi, ça, de faire ça dans ce sens-là. Donc à ce stade, ça me paraît important de... Voilà, j'ai posé pas mal de bases. On va faire le tour des 5 schémas rapidement. Rapidement, je sais pas, mais on va faire le tour des 5 schémas. Mais te rappeler, et comme je l'ai fait déjà plusieurs fois, que c'est pas noir ou blanc, que c'est pas tout ou rien. Tu n'es pas qu'un seul schéma sans les autres. Et tu ne sais pas parler qu'une langue sans parler quelques mots des autres. Par exemple, quand tu, je sais pas, tu parles peut-être français, mais tu as quand même appris, si tu as voyagé en Espagne, en Italie, en Pologne, en Allemagne, tu as quand même pris à dire merci, bonjour, commander quelque chose au bar. Tu vois, tu parles quand même quelques mots, quoi. Tu es sûr que tu ne vas pas avoir une conversation fluide avec quelqu'un de ce pays-là, mais tu as sûrement appris quelques mots, quoi, entendu quelques mots, tu sais dire deux, trois trucs. C'est un peu pareil avec les schémas sexuels. Peut-être que tu ne seras jamais un sensuel ou un sexuel à 100% et qu'il y a des choses dans cette sexualité-là qui feront peu de sens pour toi ou qui ne résonneront pas ou qui seront compliquées pour toi, mais... Il y a peut-être quand même des portes d'entrée, quoi. Il y a peut-être des moments où tu peux dire, bah là, moi, je peux accéder à la sensualité, je peux accéder à la sexualité dans ce contexte-là, etc. Où je peux initier le faire l'amour de cette porte-là, en donnant à mon ou ma chérie ce qu'ils ont envie d'entendre. Tu vois, elle prend l'exemple de, bah, elle, pour initier l'amour, en gros, c'est lui, il a dû apprendre, il a dû lui dire, bah viens, on va baiser, quoi. Concrètement, quoi. Et elle conseille. En fait, ce qu'elle disait, c'est pour les gens qui sont avec des partenaires sexuels, elle disait, ben, entraîne-toi dans le miroir à le dire, quoi. Son mec, ce qu'il a pris, ce qu'il a fait, c'est qu'il s'est entraîné à dire ces mots-là, quoi. Pour lui, c'était sale, c'était pas correct de dire ça à sa femme, etc. C'était pas juste de parler comme ça, mais elle, c'est ce qu'elle avait besoin d'entendre, en fait. C'est comme ça qu'elle est excitée, c'est ça qui démarre son feu, entre guillemets, quoi. Donc lui, il a dû apprendre à faire ça, et elle, comme c'est un sensuel, elle a dû apprendre à dire, ben, viens, on va se câliner. On va s'allonger dans le canapé. Alors que, tu vois, lui, il doit dire les mots qu'elle, elle disait. Et elle doit dire que les mots que lui disait, en fait, c'est un peu inversé, quoi. Tu parles la langue de l'autre pour que l'autre te comprenne et pas le fermer, pas le bloquer tout de suite, quoi. Parce que si elle allait le voir en disant, bah, viens, on y va, Coco, j'ai envie de toi, on baise et tout. Lui, il se refermait et il se passait rien. Et inversement, quoi. Donc voilà, donc c'est pas, il n'y a pas de noir et blanc, et ça peut permettre de comprendre l'univers de l'autre et du coup d'ajuster de cette manière-là. Tu peux apprendre à parler la langue de l'autre et entre guillemets, à ta droite dans ta manière de parler de sexualité avec ton ou ta partenaire, avec leur sensibilité à eux. C'est pas, il y a des gens qui, des fois, qui pensent que c'est de la manipulation, qu'on parle de ce genre de choses, mais en fait, tu tiens compte de la sensibilité de quelqu'un d'autre, en fait. Tu dis, ben, t'exprimes ton désir à toi, tu le caches pas, tu cherches pas à profiter, etc. Tu dis juste, ben, j'ai envie de faire l'amour, en fait, j'ai du désir. Ok, comment je l'exprime à quelqu'un de sensuel, à quelqu'un de sexuel, à quelqu'un qui a les autres schémas, est sûrement différent si tu veux pas que l'autre se referme, en fait. Si ton schéma à toi, il est trop fort, par rapport à, s'il y a trop de distance entre toi et l'autre, la réaction naturelle de l'autre, ça va être de se refermer quand toi t'exprimes ton schéma naturellement, en fait. Du coup, c'est comment t'as vu. Une des solutions, c'est bien sûr, c'est de trouver quelqu'un qui parle le même schéma que toi, c'est aussi ok, mais elle, cette femme, elle vit une sexualité très épanouie avec quelqu'un qui a un autre schéma, et ils ne se sentent pas manipulateurs, ils ne se sentent pas travestis dans leur manière d'exprimer leur désir, etc. Ils sentent, voilà, il n'y a pas ça, quoi. Ils sont honnêtes et authentiques, ils ont juste trouvé des ajustements. Donc voici les 5 schémas pour avancer. Énergétique ou vibrant. Donc là, le schéma énergétique ou vibrant, c'est des gens qui... L'espace peut être important. Donc l'espace, nécessairement, c'est peut-être des fois le lieu dans lequel tu es, mais c'est aussi la lenteur, c'est aussi vraiment cette dimension de l'espace entre les corps, par exemple. Il y a l'anticipation, la taquinerie, c'est des gens qui sont très sensibles. Donc là, si tu vas trop vite aussi, les énergétiques, c'est aussi des gens pour qui quelqu'un qui est sexuel, ça va les refermer, quoi. Trop vite, c'est un turn-off, c'est vraiment quelque chose, c'est un tue-l'amour, c'est un tue-le-désir pour eux. Donc c'est des gens qui vont peut-être aimer beaucoup les préliminaires, qui vont aimer beaucoup les massages, des choses qui, si tu ressens les énergies, si tu arrives à ressentir ça, bah, jouer avec ça, avec le contact des corps, avec le contact des sexes, etc., sans pénétration, ce genre de choses-là, des gens qui vont être très dans la vibration, ça peut passer par des méditations, ça peut être ésotérique éventuellement pour ces personnes-là, il y a accès à ça, quoi. C'est des gens qui peuvent avoir des orgasmes très puissants, qui peuvent avoir des choses qui se passent dans leur corps phénoménales sans même être touchés physiquement, en fait. T'as pas toujours besoin de toucher ces gens-là physiquement. Alors qu'un sexuel, t'as besoin de le toucher physiquement, il n'y a aucun doute là-dessus. Quelqu'un qui est énergétique, ça peut vraiment passer par des choses qui ne sont pas nécessairement du toucher physique. Tu peux aller dans l'ésotérique, tu peux aller dans le à distance, tu peux aller dans la méditation, tu peux aller dans plein de choses qui peuvent paraître bizarres pour quelqu'un qui ne connaît pas cet univers-là. Pour quelqu'un qui est, on va dire, sexuel de base, c'est un monde très, très étrange, l'énergétique ou le vibrant, et ça peut poser des soucis dans les relations où il y a quelqu'un qui est énergétique vibrant et l'autre qui est sexuel, parce que c'est vraiment des univers qui sont très différents. Mais ça peut permettre de déjà comprendre la différence et, comme je te disais, d'apprendre à parler la langue de l'autre et à commencer à en discuter. Ensuite, le deuxième, c'est le sensuel. Donc là, on est plus... Ça peut être assez proche de l'énergique et du vibrant des fois, mais là, on est vraiment sur les sens, quoi. Toucher, goût, odeur, vue, ouïe. Donc là, peut-être ça passe par la détente, par le corps, par les sens, encore une fois, tu peux bander les yeux, tu peux fermer les yeux, tu peux mettre un encens, tu peux faire goûter de la nourriture, tu peux mettre de la nourriture sur le corps, il y a plein de choses qui vont se passer là. Peut-être ce qui est important, ça va être créer une ambiance, une atmosphère pour qu'il y ait une connexion sensuelle et sexuelle. Ça va être les odeurs, la musique, un peu jouer avec tous les sens, et peut-être que tu as des sens qui sont plus importants. Il y a des gens pour qui l'odeur, c'est essentiel, quoi. C'est vraiment essentiel. L'odeur du corps de l'autre, des fluides de l'autre, toutes ces choses-là, c'est des choses qui peuvent vraiment... qui, à l'inverse, pour certaines personnes, sont dégoûtants et sont là, j'aime pas faire l'amour avec quelqu'un qui sent, ou j'aime pas les fluides qui sentent, etc. Ou à l'inverse, ça peut être des choses qui sont là, waouh, c'est vraiment enivrant, c'est vraiment excitant, peut-être un côté plus bestial, un côté plus... qui peut se révéler à travers cette sensualité aussi, des fois. Le problème que peuvent rencontrer les sensuels, c'est des fois, c'est de rester coincé dans le mental et pas justement à rester à descendre dans le corps. Donc ça va bloquer un peu désir, envie. Ça peut être l'un des problèmes. Tu vois, l'énergétique, c'est si tu vas trop vite, si t'es maladroit, tu peux vraiment les refermer. Et donc c'est pour ça que je te parle de parler la même langue, d'être adroit, d'être ajusté. C'est parce que c'est l'intimité, quoi. C'est vraiment le sexuel, la sexualité, c'est vraiment des choses de l'intime, et du coup, on peut facilement ne plus avoir envie, quoi. Si quelqu'un ne respecte pas nos limites, nos barrières, ça peut être vraiment compliqué, quoi. Donc, c'est important de comprendre comment fonctionne l'autre pour être juste, et aussi que tu sois compris pour que l'autre soit juste envers toi, pour que les deux soient. Tu vois, cette femme dans son podcast, elle parlait beaucoup de trouver des solutions pour que tout le monde soit nourri sexuellement, qu'il n'y en ait pas un qui soit... Parce que l'autre est sensuel, parce que l'autre est énergétique, on fait que ça. Et on pense qu'à elle, on pense qu'à lui, et on s'oublie complètement, et il y en a un qui a faim, entre guillemets, et l'autre qui est nourri, mais ça ne va pas, il y a un déséquilibre immense, quoi. Donc trouver cet équilibre. Donc le sexuel, c'est celui qui est excité, c'est pas ou celle qui est excitée par le simple fait de faire l'amour, sexe égale plaisir et détente. C'est entre guillemets envie de faire l'amour dès que possible, quoi. Il n'y a pas besoin de se poser la question de est-ce qu'on le fait dans 2 heures, on le fait maintenant tout de suite, j'ai envie, quoi. Tant que le partenaire est consentant, bien sûr, mais c'est vraiment cette spontanéité, ce côté direct, quoi. Comme je te disais, elle a lui posé la main sur le sexe dans la voiture, quoi, directement, tu vois, ce genre de choses, et c'est vraiment ce côté très direct, très cash, qui parfois est associé au porno. C'est vrai que le porno est plus de l'ordre du schéma sexuel. Il y a peu de porno sur l'énergétique, il n'y en a pas. Il y en a un peu sur le sensuel. Mais le porno de nos jours a quasiment une orientation très, très, très que sexuelle, quoi. C'est vraiment une sexualité orientée vers le but et vers l'orgasme, ce qui, des fois, est la limitation des gens qui se perdent dans leur schéma sexuel, qui s'identifient dans ce schéma-là, c'est juste de penser à jouir, entre guillemets. Et des fois, du coup, bah, on oublie les étapes d'avant, peut-être que passer par des étapes de sensualité, par des préliminaires, par d'autres choses, ça peut être intéressant, en fait. Donc, le quatrième schéma, coquin ou pervers, donc le kink. Là, ce que je trouve intéressant là-dedans, c'est cette excitation par les tabous, mais comprendre que les tabous, c'est ce qui n'est pas ordinaire pour toi. C'est ce qui est interdit pour toi. Donc allez, je prends un exemple super cool dans l'interview que j'ai trouvé. C'est un couple qu'elle a suivi, qui avait été ensemble depuis 40 ans, si je ne me souviens pas. C'est peut-être 20 ou 30, mais de mémoire, c'est 40, hein, vraiment 40. Et qui ont fait que le missionnaire. Donc tu t'imagines, c'est un peu la vieille époque, quoi. Hein. S'ils sont qu'à 40 ans qu'ils sont ensemble, ils ont au moins 60 ans et plus. Et donc c'est des gens qui ont peut-être vécu à une autre époque, qui ont connu 69, mais qui n'ont peut-être pas vécu cette libération-là. Ils sont peut-être restés dans d'autres... dans d'autres dogmes qu'il y avait à cette époque-là, ils ont fait que du missionnaire pendant 40 ans, et pour eux, tout ce qui était autrement, la levrette, j'en sais rien, c'était de l'ordre du tabou, c'était de l'ordre du fantasme, c'était de l'ordre du kink, du coquin, du pervers, en fait, pour eux, et du coup, il y avait ce schéma sexuel qui ressortait dans les discussions, dans les choses, dans le travail qu'ils ont fait avec elle, mais qui n'était pas du tout nourri, qui était complètement oublié. Et pour eux, bah, ils avaient, t'imagines, l'univers de possibilités qu'ils ont, quoi. Quand t'as connu que le missionnaire pendant 40 ans, et que ce soit d'autre, et coquin pervers, et ça va nourrir cette partie-là de toi qui a envie de ça, bah, tu vas pouvoir t'amuser un moment, parce qu'il y a des trucs, quoi, de la vie missionnaire. Donc c'était vraiment intéressant. Et puis se rendre compte qu'il n'y a pas besoin... Alors bien sûr, des fois, c'est des choses plus originales, comme le fer à trois, la sodomie, une expérience avec le même sexe, le fétiche, les jouets, le bondage, la domination, la soumission. Il y a plein de trucs qui sont un peu moins ordinaires et qui vont être de l'ordre du « c'est pas bien » ou « c'est mal » ou « c'est sale » et du coup, ça va nourrir une sorte de fantaisie chez nous et on cultive ce schéma coquin pervers et on va vouloir le vivre, etc. Mais c'est vraiment quelque chose qui, voilà, si t'as vécu dans une famille assez catho, avec des traditions assez catho ou religion ou autre religion, etc., ben, il va y avoir peut-être des choses qui sont pas si folles que ça, en fait, mais qui, pour toi, vont nourrir ce schéma-là. Donc c'est important de le comprendre, ça peut être aussi des choses beaucoup plus folles et beaucoup plus originales pour d'autres qui ont une sexualité libérée, qui sont au niveau plus du coquin et du pervers et qui vivent des choses, on va dire, que la majorité d'entre nous ne vivront pas et c'est aussi possible. Donc il y a un peu toutes les dimensions, tous les niveaux à l'intérieur de ça et ce qui se passe parfois, qui peut se passer, c'est que les gens qui ont ça peut t'aider à te rendre compte si tu as une partie de toi qui serait nourrie par explorer ce schéma-là, c'est te rendre compte qu'il y a de la honte autour de la sexualité, autour des désirs, autour de l'envie, autour de ce genre de choses. C'est-à-dire que tu te juges pour faire des choses qui sont interdites, qui sont pas bien, qui sont sales, etc., etc. Et le dernier schéma, c'est le polyvalent, le métamorphe. Donc c'est quelqu'un qui est excité par les quatre schémas qu'on a vus. Donc c'est plutôt des gens qui sont fluides dans leur sexualité, qui peuvent vivre plein de choses, qui sont créatifs, qui aiment l'aventure, qui sont explorateurs des pionniers, des explorateurs de la sexualité. Des fois, ce qui ressort, c'est peut-être un risque des fois de faire plaisir aux autres et de s'oublier un peu, comme tu as ce côté de « je suis celui qui est flexible », entre guillemets. Tu vois, je suis celui qui est capable de faire du sensuel, de l'énergétique, du sexuel. Ma ou mon partenaire, il est capable de faire qu'un truc, du coup, bah... voilà, je vais faire que du sexuel parce que je suis avec quelqu'un de sexuel, je vais faire que du sensuel parce que je suis avec quelqu'un de sensuel, alors que moi, je me nourris de tout. Il me faut un peu de tout. Et après, ça va être à toi de traduire c'est quoi, surtout quand t'es polyvalent, métamorphe, déjà dans les autres, hein, c'est, même quand t'es sensuel, c'est quels sens qui sont les plus importants. Il y a des choses qui sont pas ok pour toi dans la sensualité sûrement. Il y a des gens qui vont jouer dans le sensuel avec des objets coupants, tranchants, etc. Et ça va faire des sensations dans le corps, etc. Peut-être que toi, il y a des choses qui sont trop loin pour toi, quoi, pour ça, et c'est aussi ok, toi de voir tes limites et comment ces schémas-là, ils s'expriment, quoi. Mais quel que soit, en fait, ton schéma, et maintenant que tu les connais les cinq, je vais te proposer peut-être une sorte de voie d'exploration, un chemin, de quoi en faire, quoi, en fait. Je pourrais m'arrêter là, mais je vais quand même peut-être te proposer quelque chose d'un peu plus concret. Et que tu as compris que bah, accumuler de la technique, ça peut servir, mais ça ne fera pas tout. Que tu as compris que la compatibilité, c'est pas une fatalité. Ou le manque de compatibilité, c'est pas une fatalité, en fait. Donc moi, ce que je t'invite à faire, c'est de trouver des tests en ligne, gratuits. Tu tapes test schéma érotique. Parfois, c'est intitulé profil sexuel. Alors, ils n'auront pas ces mots-là. Il y en aura peut-être 4 au lieu de 5. Il y en aura peut-être... Voilà, mais tu vas trouver plus ou moins la même chose partout. Hein. C'est basé sur. Il y a plusieurs livres qui ont été écrits là-dessus. Et les sites web, pour ne pas avoir des problèmes de copyright, etc., des fois, ils changent les mots, quoi. Du coup, des fois, ils en font 4 au lieu de 5 ou 6 au lieu de 5. Enfin, tu verras. Mais je t'invite à faire 2-3 tests quand même. Donc, profil sexuel, test schéma érotique, tu tapes ça dans ton moteur de recherche. Inviter ton partenaire aussi à le faire pour déjà prendre connaissance d'un peu de ce qui ressort. Tu verras que les questions sont un peu orientées différemment des fois selon le site. Ça te permettra d'être souvent. C'est moi, j'en ai refait un là vite fait avant de faire l'émission pour ça fait longtemps que j'avais pas fait, pour voir un peu ce qui est proposé dans les tests aujourd'hui. Et des fois, c'est un peu orienté où tu as que 10 questions et du coup, en 10 questions, tu n'explores pas tout vraiment quoi. Donc c'est bien de t'exposer à 30, 40, 50 questions pour vraiment que tu réfléchisses à c'est quoi ma sexualité. Ça te permet juste de faire ça. Alors bien sûr, il y a le résultat du test, mais déjà toi, quoi, de voir c'est quoi ce que tu rejettes, entre guillemets, dans les réponses et ce qu'il t'a à dire dans les réponses. Ça se fait assez rapidement, il faudra souvent laisser ton email parce que derrière, ils vont chercher à t'envoyer de la pub ou quoi, mais bon, tu te désabonnes, tu fais le test, tu reçois ton résumé, tu te désabonnes et puis t'es tranquille, quoi. Surtout si tu prends des gros sites français. Il y a elle.com, ce genre de truc qui en propose. Tu peux désabonner facilement de ce qu'il t'envoie ensuite. Voilà. Et je t'invite aussi donc à faire les tests pour déjà te poser ces questions-là et voir les réponses que tu mets. Et tu vas te rendre compte que il y a des réponses, il y a des choses, il y a des gens, par exemple, qui se rendent pas compte qu'ils ont un côté énergétique vibrant. J'ai oublié le nom de la série. Je t'en avais parlé dans un podcast. Où ils avaient vraiment fait une c'est Loop and Goop, je sais pas quoi, un truc qui était sur Netflix. Ils avaient fait justement, ils accompagnaient 4 couples ou 5 couples avec des différents sexothérapeutes dans leur sexualité. Il y avait pas mal de choses autour des schémas érotiques, bien sûr. Et il y avait ce mec-là qui pensait être très sexuel et qui en fait, et sa femme qui était énergétique vibrante et qui en fait qui avait une sensualité, une sensibilité, pardon, à l'énergétique et au vibrant, mais ils n'avaient pas encore trouvé comment le. Lui, il s'en rendait pas vraiment compte, mais dans les tests, c'était clairement ressorti. Dans les tests un peu plus poussés, hein, c'est pas des tests gratuits qu'ils avaient fait, c'est des tests un peu plus longs et payants. Tu peux aussi trouver des tests payants et les faire si tu as les moyens. C'est aussi OK d'avoir un peu plus de. Voilà, d'avoir des tests un peu plus poussés, on va dire. Et il y avait de l'énergétique. Donc faire les tests, ça va te permettre de réfléchir à ça et peut-être de te révéler un peu, de comprendre que tu vas mettre de la nuance et tu vas peut-être te surprendre. En fait, lui, il ne pensait pas du tout être énergétique avant de voir le résultat. Et quand ils ont exploré avec la sexologue, qu'ils ont fait des exercices, etc., il s'est rendu compte à quel point il était. Donc, un couple qui pensait ne pas être compatible avant d'avoir fait les tests, avant d'avoir travaillé avec cette sexologue, pardon. Il pensait être hautement compatible et en fait il l'était fortement. Donc il y a ça aussi, hein. C'est pour ça que c'est important d'avoir des outils, des cartes de lecture, de faire un peu un travail de recherche, parce que des fois c'est juste de la maladresse, quoi, c'est juste de l'incompréhension. Je sais pas, ce couple, c'était des blagues qu'ils avaient, je sais pas, enfin ils avaient eu des enfants ensemble, ils vivaient ensemble depuis longtemps, quoi, c'était pas des jeunes amoureux, c'est vraiment des gens qui ont partagé beaucoup de trucs, et ils étaient très touchants, quoi, de se rendre compte que toutes ces années ils ont pensé qu'ils n'étaient pas complètement compatibles, quoi, sexuellement, et que ça allait pas, alors que, ben, en fait. Si, en fait, il fallait juste, ils ne savaient pas que ça existait. Donc, je trouve que les tests sont bien pour ça. Donc, c'est pour ça que c'est la première étape. Parce que tu vas être au clair sur qui tu es, qui ou il ou elle est un peu plus. Et il faudra bien sûr en discuter. Donc, peut-être des questions que tu peux poser, que tu peux recevoir, c'est qu'est-ce que j'aime? Tu peux poser ça à toi et le partager. Qu'est-ce que tu aimes dans l'érotique, dans le sensuel, dans le sexuel, dans le kink, dans peu importe. Une autre question, tu peux demander à ton partenaire, tu es ce schéma-là, sensuel, etc. Mais traduis-le-moi avec tes mots à toi, quoi. Comment ça se manifeste chez toi? C'est quoi tes limites? C'est quoi tes désirs? C'est quoi qui te fait kiffer? C'est quoi qui te ferme? C'est quoi quand je fais ça? Enfin, tu vois. Et puis même s'il y a cette ouverture d'esprit, peut-être parler de ce qui t'a plu et pas plu avec tes relations d'avance. Qu'on a souvent, pour la majorité d'entre nous, on a eu d'autres partenaires et il y a des choses qu'on a vécues qui étaient fantastiques, des choses qu'on a vécues qui étaient moins bien, et pouvoir se dire, bah ouais. Là, quand il faisait ça, lui, il avait compris un truc, je sais pas comment il a compris ça, mais quand il faisait ça ou quand elle faisait ça, moi, c'est l'extase, quoi. Est-ce que tu penses que tu peux essayer? Est-ce que je peux te guider? Et oui, c'est pas pour. Tu vois, c'est pas pour refaire l'amour en pensant à lui, ça n'a rien à voir avec ça, c'est juste que mon corps, il est sensible à ça. Mon corps, si tu stimules comme ça, si tu fais ça en même temps, si tu passes par cette étape-là, ben, il ressent ça, et ça, je kiffe, quoi. Et du coup, ben, pourquoi pas le partager avec toi, plutôt que de le garder dans une case de ma tête d'un truc que je retrouverai jamais et que j'ai vraiment adoré. Donc voilà, donc ça va être d'en parler. Donc là, c'est un peu plus compliqué parfois, mais ça me paraît être une étape importante. Donc faire le test pour se comprendre, pour ensuite en parler. Et peut-être que l'étape d'après, donc ça va être de le mettre en pratique. Et c'est pas toujours facile, c'est pas toujours évident. C'est aussi pour ça que j'aime bien cette interview et pour ça que je voulais t'en parler. C'est parce que elle, en fait, cette nana, donc Miss Jaya, son partenaire, il avait coquin. Dans le schéma coquin, il avait la soumission et les cordes qu'il aimait particulièrement. Donc, ils ont pris ils sont allés à des ateliers de Shibari, donc c'est des méthodes pour attacher les cordes, etc. Avec des cordes qui, voilà, qui brûlent pas, etc. Donc, c'est vraiment des choses très particulières. Parce qu'il aimait bien se lâcher prise, d'être pris dans les cordes, etc. Donc c'était vraiment quelque chose qui était important pour lui. Il y a des, enfin, c'est difficile d'apprendre ça sans être initié ou sans regarder un tutoriel, quoi. C'est quand même compliqué de. Si tu regardes un peu à quoi ça ressemble le shibari, tu verras que c'est pas facile d'apprendre ça tout seul. Et surtout ne pas prendre une corde d'un magasin de bricolage. Il y a des cordes spéciales pour ça qui brûlent pas. Tu risques de vraiment te faire mal sinon. Et aussi la domination. Donc ils ont pris, elle a pris un coaching avec une dominatrice, une nana qui voilà qui fait ça depuis longtemps et qui coach les autres femmes ou les autres hommes à l'être, donc pour apprendre les codes, pour apprendre les safe words, pour apprendre la manière de faire, pour comment trouver les limites de l'autre. Si tu écoutes l'interview par exemple d'une dominatrice ou d'un dominateur, tu verras qu'il y a vraiment c'est lire les limites de l'autre et comment être bon avec ça quoi. C'est vraiment important quoi, en plus d'avoir les mots, les safe words, les mots de sécurité, etc. Donc c'est des univers qu'ils ont dû. Ils n'ont pas juste parlé de ça, ils n'ont pas trouvé les solutions par magie entre eux. Si je voulais te parler de ça, c'est parce que c'est pas, ça viendra pas toujours par magie entre vous, en fait. Parfois, il va falloir aller creuser, il va falloir lire un bouquin sur le sujet, il va falloir aller dans un club, échangiste ou j'en sais rien. Il va falloir aller trouver quelqu'un qui pratique cette sexualité-là depuis longtemps pour apprendre, pour comprendre, voilà, pour pas se faire mal, pour explorer petit à petit. Elle, son conseil, et que je peux tout à fait te partager aussi, c'est de faire les choses des petites victoires d'abord, quoi. C'est de faire les choses, voilà, si c'est la domination, de pas aller dans un truc de ouf direct, quoi. Faire des petits scénarios, dire, voilà, pendant 10 minutes, je vais te demander de faire des trucs, et on met un mot en place pour dire les limites, ou plusieurs mots. On discute un peu avant de c'est quoi les limites, de où est-ce qu'on veut aller pendant cette session-là, et apprendre quoi, explorer. C'est pas des choses qui se font du jour au lendemain, c'est pas des choses qui se font toutes seules, c'est pas des choses qui sont naturelles en fait. C'est pour ça qu'il y a des cartes de lecture, c'est pour ça que je te partage de ça. Le couple, ça se fait pas naturellement, y compris la sexualité. Donc eux, ils ont dû faire ça par exemple. Et peut-être que ça va pas te parler, mais peut-être que tu vas comprendre. Pourquoi cette histoire elle est intéressante, pourquoi je voulais t'en parler, et que même si ton couple est différent, que toi tu vas pouvoir, même si les schémas sont différents, tu vas pouvoir trouver des solutions, tu vas entrevoir le champ des possibilités, tu vas commencer à penser autrement. C'est pour ça que je t'en parle. C'est vraiment pour te dire, avec des exemples concrets de ce qu'elle elle partage, de ce qu'elle elle vit publiquement, de ce qu'elle partage du moins publiquement de sa sexualité, qui permet de te dire, ah ouais. Ben moi, j'ai écouté plein d'interviews de sexologues, etc. Donc, ces choses-là, elles sont devenues assez banales pour moi, entre guillemets, d'entendre ces gens-là en parler. Mais la première fois que j'ai entendu parler de gens, de leur sexualité, comme ça, de leur manière de résoudre les problèmes, des schémas érotiques, j'étais là, waouh, en fait, il y a tout cette. C'est pour ça que j'ai fait le blog à la base, Graines de Cœur d'abord, puis ensuite le podcast. C'était vraiment parce que. Parce que quand j'ai appris tout ça, j'ai découvert tout ça, j'étais là, putain, c'est super, j'aurais aimé connaître ça avant mes, je sais plus, 28, 30 ans quand j'ai commencé, quoi, il y a une dizaine d'années. Ça aurait été pas mal si j'avais su ça avant, quand j'ai fait mes premières relations, avant d'avoir mes premières expériences sexuelles. Ça aurait été cool quand même que je comprenne qu'il y a des. Voilà, c'est un peu mettre dans des cases, et en même temps, au fil du temps, t'apprends à sortir de ces cases-là, à pas t'identifier trop à ta case sexuelle ou à ta case sensuelle, et à dire, voilà, oui, principalement, je suis ça. Mais aussi, j'aime bien ça, et dans le sexuel, j'aime bien ça, des fois, où j'aime bien avec, quand je suis dans cette énergie-là, dans cet esprit-là, dans cet endroit-là, voilà, c'est ce genre de choses, quoi, apprendre à te connaître, à vibrer, tout ça. Et peut-être aussi, donc, un dernier exemple, avant qu'on se quitte, et que j'ai deux, trois autres choses encore à partager, mais que j'ai trouvé super, qui, eux, vivent dans leur sexualité, que j'ai trouvé très original. Donc, rappelle-toi que. C'était une femme très directe autour de la sexualité, donc elle était en mode vas-y, viens, on baisse, quoi. Ou elle prendre le sexe, c'est des choses très, très franches, quoi. Et ça passait pas. Ça le refermait, etc. Donc elle était maladroite, elle s'est marché sur des œufs, elle savait plus quoi faire, comment s'y prendre, quand le faire, quand pas le faire, parce que c'est comme ça que pour elle ça marchait, la sexualité. En plus, elle faisait ça à un mec, donc pour elle, elle comprenait pas pourquoi le mec, normalement, le mec, quand tu fais ça, il réagit, quoi, dans les films, dans ce que t'entends parler des hommes, c'est comme. Tu vois, donc c'était très compliqué pour eux. Et eux, ils ont eu la chance, ils ont créé une solution créative, on va dire, de jouer avec le côté domination. Donc, il joue régulièrement au jeu de rôle de tu feras ce que je te dis pendant 24 heures ou pendant 2 heures ou pendant une semaine, j'en sais rien, tu vois, ce genre de truc, quoi. Et du coup, elle va poser ça, donc lui, dans la situation du dominé. Et donc là, derrière, elle peut exprimer ses délires, ses désirs, elle peut exprimer son schéma sexuel, elle peut être là, bah vas-y, tu me fais un cunni, vas-y, tu fais ça. Parce qu'ils ont posé le cas du. Ça, lui, ils ont discuté de ses limites à lui, de ce qui était juste pour lui, etc. Ils sont au clair sur tout ça. Donc là, ils rentrent dans un jeu de rôle du je suis la dominante, tu es le dominé, tu feras ce que je veux pendant 24 heures. Et bien sûr, il peut dire non. Et voilà, si tu connais pas trop ce genre de pratique, oui, il y a des règles, il y a du consentement. Le consentement, c'est tu feras ce que je te dis. Et en même temps, c'est tu connais tes limites, tu les as explorées, tu sais les exprimer. On peut en parler ensemble. On est capable de gérer ce jeu de rôle-là, en fait. Ça peut paraître bizarre si t'as pas ces, tu comprends pas ça, mais voilà, c'est des choses qui sont claires et c'est des gens qui sont clairs là-dessus, quoi. Il y a pas de problème. C'est pas entre guillemets du viol ou des choses qui sont vraiment négatives parce que si, toutes ces choses-là, elles sont super claires entre eux, quoi. Donc, tu vois, ils ont vraiment trouvé une solution originale et c'est ce que je trouve génial dans ces partages de gens qui parlent de leur sexualité, c'est des fois c'est la créativité. Moi, je te parlais souvent des fois de ce couple là dans les podcasts d'Esther Perel qui était exclusif, mais qui une fois par an ils allaient à Las Vegas, des Américains, et ils faisaient de l'échangisme ou du libertinage, j'ai oublié, peu importe. Mais ils vivaient ça un week, enfin une semaine par an à Las Vegas pour pimenter leur vie sexuelle après 20 ou 30 ans de mariage et parce qu'ils s'ennuyaient un peu des fois, etc. Puis ils revenaient à la maison, puis ils étaient exclusifs parce qu'ils voulaient pas prendre le risque que ça se sache pour le travail, pour la famille, etc. Tu vois, donc ils prenaient l'avion, ils allaient à l'autre bout des États-Unis, ils faisaient leur semaine cool. Ils vivaient les expériences qu'ils avaient envie de vivre, ils revenaient. Je trouve ça super créatif, tu vois, parce que des fois, on va mettre les gens dans la case de t'es libertin ou t'es exclusif ou ce genre de truc. Et eux, ils vivaient une parenthèse d'une semaine par an, et puis c'est tout. Et ils étaient au clair avec ça, ils étaient à l'aise avec ça, ils vivaient heureux, épanouis sexuellement, ils étaient contents. Et donc c'est là où la créativité, elle peut arriver dans ta vie, dans ton couple, avec les schémas sexuels, avec les quatre dimensions du couple, avec tous les outils que je te partage. C'est vraiment là où ta créativité, elle est importante. C'est prendre cette carte de lecture, cet outil, et en faire quelque chose de pertinent pour toi. Alors bien sûr, ça va pas être ça qui va peut-être fonctionner pour toi, et peut-être que ça va être ça, peut-être que tu vas comprendre que si la domination et la soumission est possible dans ta relation, d'une certaine mesure, ça va pas être total, ça va pas être dans les extrêmes, mais peut-être qu'il y a d'autres schémas sexuels qui vont pouvoir s'exprimer dans ce contexte-là, de dire, bah voilà, je vais être le dominant, la dominante pendant 2 heures, 3 heures. Et du coup, je vais pouvoir exprimer mon schéma et ça va aller à mon partenaire, à ma partenaire. Et tout le monde va être content. On va se nourrir tous les deux, en fait, cette interaction. Plutôt que on soit que dans le sexuel et c'est moi qui pousse mon sexuel sur l'autre et l'autre, il ne soit pas nourri par son manque de sensualité. Parce que là, ce n'est pas sa sensualité qui est nourrie, c'est sa domination dans ce contexte-là pour son compagnon à elle, à Jaya. Du coup, bah, il va falloir aller nourrir la sensualité à d'autres moments. Ou peut-être qu'elle va faire une demande très sensuelle parce qu'elle sait que c'est OK pour elle et qu'en plus, ça va lui faire plaisir à lui de le donner. Donc tu vois, il y a vraiment toutes ces choses-là, elle peut lui faire plaisir, elle peut se faire plaisir à elle, dans un cadre qui est safe, dans un cadre qui est sécure, dans un cadre qui est consentant, dans un cadre qui est clair, et tout ça, c'est super, et ça permet vraiment cet épanouissement. Et pour moi, c'est vraiment ça qui change tout, quoi. Ils mettent un cadre clair sur ce qu'ils veulent faire, qui correspond à qui ils sont, et qui les nourrit tous les deux. Et ils en discutent, ils en parlent, ils ajustent, etc. Et du coup, ils sont encore ensemble, ils sont épanouis, et du coup, tu vois, c'est plus cette question de est-ce qu'on est compatible, c'est on a appris à être compatible. Moi, pour moi, et on a presque fini, c'est que une compatibilité qui est naturelle, c'est-à-dire que tu rencontres quelqu'un et tout se fait naturellement. Pour moi, cette compatibilité, elle est fragile parce que elle est donnée, entre guillemets. Tu n'as pas su la créer, tu n'as pas su la cultiver, tu ne la comprends même pas. Des fois, les gens ne comprennent même pas pourquoi il y a cette compatibilité et quand ils la perdent, ils sont déboussolés, ils sont complètement perdus parce que ça a été fait, ça se faisait, ce qui était naturel ne l'est plus, et du coup, c'est là où tu te poses la question de la compatibilité, est-ce que c'est la bonne personne, et tu veux changer de partenaire, et tu veux tout foutre en l'air, etc. Alors que là, c'est une compatibilité qui est solide, qui est apprise, qui est passée par l'expérientiel, par la communication, qui a toutes les bases, il y a toutes les autorisations, entre guillemets, il y a le consentement, il y a tout qui est là pour que ce soit ajustable, que ce soit modifiable, que ce soit réinventable, que ça puisse évoluer. Tous les ingrédients sont là, en fait. Et c'est là la puissance d'un couple sur la durée, quand il y a de la conscience, quand il y a de la communication, quand il y a de l'ajustement, quand tu utilises ces outils-là, comme les quatre dimensions du couple, je t'en ai parlé un peu au début de ce podcast, quand tu utilises les cinq schémas érotiques, c'est que derrière, c'est résilient, ton couple, en fait, ce que tu as dû apprendre à vivre quelque chose d'épanouissant, tu as dû apprendre, et du coup, ben, Oui, ça demandait un effort. Oui, c'était pas facile. Oui, ça venait de quelque chose qui n'était pas confortable, d'une sexualité qui était pas comme tu voulais, au point de peut-être considérer la séparation dans leur cas à eux, dans cet exemple-là. Et du coup, ils ont vraiment. Et du coup, c'est vachement plus solide. J'espère que tu comprends vraiment ça, quoi. Donc, les difficultés dans le couple, c'est des opportunités pour vraiment apprendre à faire autrement et derrière développer des outils, des manières de faire qui sont vraiment nourrissantes pour ton couple. Et c'est pour ça que je te partage. Alors, encore une fois, ça, il y a toujours l'astérisque du attention aux relations abusives, attention avec les gens qui ne vont pas respecter tes limites, qui ne vont pas respecter ton consentement. Il y a toujours les extrêmes où ces choses-là sont abusées et sont néfastes pour toi et sont mauvaises. Mais quand tu es dans le cadre d'une relation bienveillante avec quelqu'un avec qui ça va bien, etc., ça peut être vraiment riche. Et pour moi, c'est ça qui permet ces cinq schémas. C'est pour ça que c'est un outil dont j'aime te parler. Il permet simplement de décrypter quelque chose qui semble incompréhensible, la sexualité dans le couple. Donc, si tu parles anglais, si tu comprends l'anglais, peut-être que les magies même de l'IA feront que désormais ou bientôt, tu pourras même passer la vidéo dans une IA et tu pourras l'écouter en français. C'est le podcast de Lisa Bilieux, donc c'est la femme de Tom Bilieux, je t'en parle parfois. Donc, le podcast de Lisa, c'est Woman of Impact. C'est en anglais, donc voilà. Si tu comprends pas Woman of Impact, probablement c'est que tu comprendras pas l'épisode. C'est l'épisode du 6 décembre 2023 avec Jaya, avec Miss Jaya, que tu peux trouver gratuitement sur plateforme de podcast, sur YouTube. Elle aborde plein d'autres choses. C'est presque une interview, je sais plus, c'est 1h30, 2h, quelque chose comme ça. Donc c'est vraiment très long. C'est quelqu'un qui est vraiment super intéressante autour de la sexualité. Elle parle de plein de trucs. Elle aborde, voilà, elle parle d'elle aussi, de sa vie, de comment elle aide ses clients, etc. Et c'était très intéressant. Donc, au-delà de ça, si tu veux aller un peu plus loin que ce podcast, les cinq schémas érotiques, c'est voilà, c'est un outil qui est très connu. Il y a plein, tu trouveras d'autres podcasts qui vont peut-être aller plus en profondeur sur chaque schéma. Tu trouveras des articles à lire, tu trouveras même des bouquins dessus. Donc, si tu veux approfondir, si tu as besoin d'approfondir plus qu'on a vu, c'est tout à fait possible en lisant, en écoutant. Si tu veux aussi, peut-être c'est des choses que tu as envie de mettre en place dans ton couple et qui sont compliquées, on peut aussi voir pour un accompagnement. Donc les accompagnements, je les propose, ils sont disponibles sur grainesdecœur.fr pour avoir un peu les détails, les tarifs de comment ça fonctionne. Et si jamais bah, tu as un peu de mal à mettre en place les schémas érotiques dans ton couple, ou du moins à découvrir le tien et à comprendre comment en parler, voilà, à trouver les ajustements nécessaires pour, tu vois, comme eux ils ont fait, Jaya et son mec, pour vivre quelque chose d'ajusté, quoi. Ça peut en faire partie. Avant de conclure le podcast, j'aimerais juste peut-être m'excuser. J'ai eu des problèmes de son ces dernières semaines. En théorie, c'est réglé. On va croiser les doigts. Faut que je réécoute ce podcast. Voilà, désolé pour ça. Je voulais en parler dans le podcast d'avant déjà et j'ai oublié. Je me suis laissé entraîner par le podcast. J'ai failli oublier cette fois-ci. Voilà, normalement les problèmes techniques de son sont réglés. Il n'y a que moi hein, dans ce podcast. J'ai pas de technicien sonore. J'y connais pas grand-chose en son. Du coup, c'était un peu compliqué à résoudre. Mais normalement, tout va bien. Donc, n'hésite pas à me faire un retour sur la qualité du son. S'il y a les grésillements, s'il y a des choses comme ça. Voilà. Et enfin, comme toujours, si tu veux soutenir le podcast, tu peux t'abonner. C'est une très bonne chose. Tu peux le partager, c'est aussi une très bonne chose. Tu peux laisser un commentaire et des étoiles, ou faire les trois ou les deux. C'est des très bonnes choses. Donc, je te remercie d'avance de ton soutien. Merci de ton écoute. Vous êtes de plus en plus à écouter. Donc, c'est vraiment cool. Et enfin, si communiquer, c'est compliqué, tu as peut-être besoin d'un petit coup de main. J'ai un e-book que j'offre qui est gratuit sur graindecoeur.fr. Tu laisses ton prénom et ton email et tu recevras un email pour le télécharger. Voilà, je te remercie de ton écoute et je te dis à bientôt. Ciao.